Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Lui se considérait comme un historien, ses adversaires le qualifiaient plutôt de polémiste ou de pamphlétaire. Né en 1903 à Mâcon, élève de l'École normale supérieure où il fut le condisciple de Sartre et de Nizan, agrégé de lettres classiques, Henri Guillemin quittait en 1945 le parcours universitaire en devenant attaché puis conseiller culturel à l'ambassade de France à Berne, carrière en parallèle de laquelle il bâtit une œuvre composée de plus de 70 ouvrages, à quoi il faut encore ajouter des centaines d'articles, de conférences et un très grand nombre de séries radiophoniques et télévisuelles qu'il anima principalement pour la radio-télévision suisse romande. Parmi ses ouvrages, plusieurs monographies sur Rousseau, Napoléon, Hugo ou Jaurès notamment, et des études portant sur des épisodes et des débats marquants du XIXe siècle, tels que la Révolution de 1848, la Commune de Paris ou l'affaire Dreyfus, dans lesquelles il développait une vision souvent hétérodoxe de l'histoire de France. En 1976, dans les trois premiers volets d'une série de 5 entretiens menés par Geneviève Guichenet, Henri Guillemin racontait comment il avait commencé à pratiquer l'histoire par une thèse sur Lamartine, évoquait ses ouvrages iconoclastes sur Benjamin Constant et Vigny, avant de donner sa vision de l'affrontement entre Danton et Robespierre et d'évoquer le lien de Tolstoï à la foi chrétienne.
Henri Guillemin, quand et pourquoi avez-vous commencé à écrire ?
C'est bien simple, c'est quand j'ai préparé ma thèse de doctorat. Vous savez que dans l'enseignement, il y a l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. J'étais agrégé, par conséquent, j'étais professeur de lycée, et j'avais très envie d'entrer dans l'enseignement supérieur. Pour entrer dans l'enseignement supérieur, il faut faire une thèse. Alors, je m'étais dit, je m'avais fait une thèse de doctorat, j'ai commencé en 1929, je crois. J'avais été agrégé en 27, c'est bien ça. Cette thèse de doctorat... Il y a des gens qui ont choisi d'abord leur sujet parce que ça les passionne, et d'autres qui choisissent le meilleur sujet possible pour arriver dans la liste de ce qu'on appelle l'aptitude, c'est pas, la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur. Je dois vous avouer que le sujet que j'ai choisi n'était pas un sujet qui me passionnait en soi, que je le prenais simplement parce que j'avais décidé Lamartine, parce que je suis mâconnais, et que je m'étais dit, j'ai probablement des choses à dire sur Lamartine, à trouver, il y a peut-être des documents, etc. J'ai eu donc parti sur une, ça s'appelait comme ça, étude historique et critique du Jocelyn de Lamartine. Et je dois vous dire, je dois vous avouer gentiment que ça m'excitait pas beaucoup. Simplement, je m'étais dit, il faut une thèse, bon, on va voir. Or, peu à peu, je me suis passionné dans cette thèse parce que je me suis aperçu que l'image traditionnelle qu'on m'avait donnée de Lamartine n'était pas du tout vérifiée par ce que je découvrais. Puis j'ai eu des chances. Il m'est tombé sous les yeux des documents inattendus. Ce sont des choses qui vont revenir comme ça dans ma carrière, mais il faut que je vous raconte la première parce que c'était vraiment une grosse chance, hein. J'avais quelques relations à Mâcon, bien entendu, puisque je suis né ici. Et un vieux professeur en retraite me dit, rue Rambuteau, et la rue Rambuteau, elle est parallèle à la rue Chouinet, la rue Lacretelle. Il y a deux vieilles filles, là, c'est pas la peine que je dise le nom, dont je crois savoir, disait ce monsieur, quelles sont les petites filles ou arrière-petites filles du valet de chambre de Lamartine qui leur est accompagné en Orient. Vous devriez aller les voir. Oh, je me suis dit, mon Dieu, pourquoi pas? Et puis l'idée m'était venue que peut-être en effet c'était produit pour Lamartine ce qui s'est produit pour Chateaubriand. Vous le savez sans doute, lorsque Chateaubriand a écrit son itinéraire de Paris à Jérusalem, il avait emmené un valet de chambre cultivé, capable de prendre des notes, et le journal du valet de chambre a été publié parallèlement à celui de Chateaubriand. Si jamais ce valet de chambre qui s'appelait Geoffroy Ducoté, valet de chambre de Lamartine, avait pris des notes, ça serait passionnant. Alors j'ai été voir ces deux personnes. J'ai été un peu intimidé, mais elles étaient tout à fait gentilles, parce que je me présentais comme un agrégé, ça faisait encore à ce moment-là de l'impression. Elles m'ont dit, mais oui, on a des carnets, des cahiers du grand-père. Alors pensez l'état dans lequel j'étais. Et évidemment, ces cahiers du grand-père étaient saisissants. Ce Geoffroy Ducoté n'écrivait pas un très bon français, quoi qu'il n'y ait pas de faute de français, c'était plat, quoi. Mais je ne lui demandais pas de faire la littérature, je lui demandais de rapporter des faits. Et il donnait des choses d'un grand intérêt. Par exemple, négatives et d'autres positives. Négatives quoi ? Ben Lamartine, dans son voyage en Orient, raconte qu'il avait frété, c'est vrai, un voilier pour lui et sa famille, et que la navigation était pleine de périls, et qu'aux alentours de Malte en particulier, il a failli être attaqué par des pirates. Et ben le Geoffroy du côté n'a jamais parlé de pirates. Et c'est une invention pure et simple de Lamartine pour se faire lire. Bon, ça c'est négatif. Mais positif, voilà une chose extrêmement intéressante. Lamartine a perdu la foi quand il était là-bas, en Orient, pour des sûr, enfin nous verrons tout à l'heure peut-être. Mais le valet de chambre ajoute un détail que Lamartine se gardera bien de publier, et que voici. Ils avaient pris une caravane pour aller de Beyrouth jusqu'à Jérusalem, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Lamartine y allait dans des dispositions assez fiévreuses. C'était un homme qui sentait que sa foi disparaissait et qui s'était dit, peut-être sur cette terre, comme il dira lui-même, qui a germé le Christ, ma ferveur va reparaître. Toujours est-il, il y allait fort ému. Hein. Et Geoffroy du Côté raconte ceci. Lorsque nous étions à une certaine distance de Jérusalem et qu'on ne voyait pas encore, notre guide arabe nous dit, voyez, monsieur, si vous montez sur cette colline, au sommet de la colline, vous apercevrez de l'autre côté Jérusalem. J'étais derrière monsieur, c'est comme ça que du côté du jour, j'étais derrière monsieur, et monsieur, comme on dit, pique des deux, et le voilà qui part sur sa jument pour galoper en avant de tout le monde pour arriver au sommet de la colline. J'étais derrière lui. Et je vois monsieur, lorsqu'il est arrivé au sommet de la colline, et qu'effectivement on voyait les murailles de Jérusalem, qui est descendu de son cheval, qui s'est mis à genoux, et qui a embrassé la terre. Bon, c'était très impressionnant que Lamartine ait fait ça, mais il ne l'a pas dit. Alors voilà un petit document qui me surgissait, qui me sautait au visage, et dont je me suis dit, mais comme ça change, en fait, comme c'est pas du tout le Lamartine un peu mollasson, qui est écrit dans un langage fané, et qui semble un peu féminin. Puis alors, étudiant de plus en plus mon personnage, je me suis aperçu qu'effectivement, c'était un homme très viril, qui avait des idées très précises, qui politiquement savait parfaitement où il allait dès 1831, et c'est à ce moment-là qu'après avoir terminé ma thèse, je me suis dit, mais... ce que je viens de découvrir absolument par hasard, à savoir que Lamartine n'est pas conforme à l'image qu'on m'avait donnée de lui, ben, y a bien des chances pour que si j'applique ma méthode, c'était une méthode de recherche, d'investigation, à d'autres qui ont une figure traditionnelle, cette figure traditionnelle peut-être qu'une étude en profondeur va la modifier profondément. Alors c'est là, voyez-vous, c'est là que je me suis décidé à faire de nouvelles démarches dans la direction d'autres personnes. Le premier que j'ai étudié, c'est Jean-Jacques Rousseau, parce que j'avais été élevé dans l'idée, quoi, c'est ce qu'on me disait en classe, que c'était une sorte de fou, qu'à la fin il était victime d'un délire obsidional. J'ai travaillé et j'ai aperçu, et je suis sûr de ce que je dis, que si à la fin de sa vie Rousseau a donné des signes de détraquement, c'est parce qu'il était traqué. C'est un homme qui était doublement traqué, il était traqué du point de vue religieux parce qu'il n'était pas catholique traditionnel, protestant et même libéral, et traqué du point de vue politique parce qu'il avait des idées qui déplaisaient horriblement aux encyclopédistes. Alors après avoir passé par Rousseau, après avoir rétabli ce que je crois être la vérité sur Rousseau, j'ai regardé du côté de Victor Hugo. Ça, je dois vous dire aussi, c'est encore une veine, une chance qui m'est arrivé, j'ai été mis en rapport avec Jean Hugo, l'arrière-petit-fils, 1948, je crois. Et Jean Hugo, avec une extraordinaire générosité, s'intéressant à ce que je voulais faire, me dit, mais écoutez, dans la famille, on a encore beaucoup de textes inédits de l'arrière-grand-père. Alors il a mis à ma disposition 41, vous entendez, 41 carnets intimes de Victor Hugo qui n'avaient jamais été publiés. Et toute la correspondance familiale. De nouveau, le personnage s'est transfiguré. On m'avait appris dans mes classes, toujours dans mes classes, on m'avait appris Victor Hugo, admirable artisan du verbe, cymbales retentissantes, mes pensées, zéro. Émile Faguet disait, enfin, laissait entendre que Victor Hugo est une espèce d'imbécile. Et d'autres disaient, c'est un esprit sous-primaire. Et voilà qu'en étudiant, non pas seulement ces manuscrits inédits, mais en relisant des textes, je me suis aperçu que c'était un homme là, une substance de pensée étonnante. Alors c'est là que le déclic vraiment s'est produit, en plusieurs étapes. Déclic Lamartine, déclic Jean-Jacques Rousseau, déclic Victor Hugo. Je me dis, mais l'histoire littéraire, elle est pleine de légendes. Il faudrait reprendre les choses une à une. Dans une vie humaine, on ne peut pas le faire, on va faire quelque chose. Alors j'ai travaillé sur un certain nombre de gens pour essayer de substituer à la légende traditionnelle ce qui m'apparaissait être comme la vérité.
Cette recherche de la vérité de façon systématique a fait dire de vous, Guillemin est un iconoclaste de profession et d'obsession.
Oui, hélas. Je sais très bien, il m'est arrivé de faire des articles, des livres hostiles. Au point de vue d'histoire, nous y viendrons tout à l'heure, hostile à Napoléon, c'est évident. Et au point de vue littéraire, j'ai fait deux livres hostiles, c'est vrai, et un autre demi-hostile. Le livre le plus hostile est sur Benjamin Constant, un second livre assez hostile est sur Vigny, et le troisième c'est sur Madame de Staël, ça c'est moins hostile que souriant. Qu'est-ce qui s'était passé là encore? Pour Benjamin Constant, le déclic s'est produit comme ça. J'étais en train de travailler sur la Révolution française, je regardais ce qui s'était passé en Seine-et-Oise, je suis arrivé à l'Usarche, c'était aux Archives nationales, et en regardant le dossier l'Usarche, vraiment, vous savez, plein de poussière, je suis sûr qu'il y avait peu de gens qui avaient mis le nez là-dedans. J'ai trouvé une petite feuille de papier rectangulaire avec une signature parfaite, Benjamin Constant. Dans le coin supérieur gauche, il y avait au citoyen Sottin, chef de la police, en main propre, et c'était une dénonciation. Benjamin Constant, tout Suisse qu'il était, voulait se faire élire aux 500, à la chambre des 500. Il n'en avait pas le droit, mais enfin il espérait qu'on l'oublierait qu'il était Suisse. Alors il y avait un type qui le gênait, c'était le curé, il s'appelle l'abbé Houdaille, curé de Luzarches, qui trouvait que ce Benjamin Constant était mal, quoi. Alors Benjamin Constant, profitant de ce qui venait de se produire, l'événement de Fructidor, vous vous rappelez peut-être que Fructidor, ça a été un mouvement très anti-religieux, Fructidor dénonçait au citoyen Sautin, ministre de la police, le curé Houdaille, en disant « je ne demande pas qu'on l'arrête, je demande simplement qu'on l'éloigne ». Alors je me suis renseigné sur le destin de ce monsieur éloigné, je me suis aperçu qu'il avait été en effet singulièrement éloigné, puisqu'on l'a envoyé en Guyane où il est mort l'année suivante. Donc tout à coup, je m'apercevais, j'avais sous les yeux la preuve que Benjamin Constant, le muscadin Benjamin Constant, avait sur la conscience, quoi, la responsabilité de l'arrestation d'un prêtre qu'il a envoyé crever en Guyane. Bon, alors je suis parti là-dessus et j'ai fait un livre qui s'appelle Benjamin Constant Muscadin, où j'ai dit, on nous a raconté des blagues sur Benjamin Constant et le parlementarisme, sur Benjamin Constant et la liberté. Il faut savoir quelle a été réellement sa politique entre 1795 et 1800 et qu'il a soutenu très vigoureusement Bonaparte pour son coup d'État. 1. 2. Vigny, encore une chance. Ça, c'est autre chose. J'étais attaché culturel à Berne et voilà une personne qui voulait vendre des manuscrits importants à la Bibliothèque nationale et qui m'avait demandé, puisque j'étais l'intermédiaire légitime, quoi, officiel, si je pouvais examiner ces manuscrits et voir s'ils étaient vendables. J'ai servi d'intermédiaire, je devais voir ces manuscrits, c'est ce que m'avait dit mon ambassadeur. Et là, j'ai fait encore une découverte. Presque, hélas, presque dans le même sens que la découverte de Benjamin Constant. À savoir qu'il y avait des notes prises par Vigny pour les entretiens qu'il avait avec le préfet de la Charente. Vigny avait sa propriété, vous le savez bien, en Charente. Nous sommes au lendemain du coup d'État. Il a eu très peur au moment de la Révolution de 1848. Il a peur pour ses eaux de vie et pour sa propriété. Par bonheur, maintenant est arrivé le coup d'État. Alors il va voir assez régulièrement le préfet de la Charente pour lui dénoncer, comme Benjamin Constant est là, lui dénoncer un certain nombre de gens qu'il faut soit arrêter, dit-il, soit surveiller. Comprenez bien, un homme comme Victor Hugo, comme Chateaubriand et comme Lamartine, on fait de la politique. Mais vraiment, je ne me représente pas, ni Chateaubriand, ni Victor Hugo, ni Lamartine, faisant cette politique-là, c'est-à-dire une politique d'énonciation policière. Tout à coup, Vigny m'apparaissait comme un indicateur de police. Attention, pas un indicateur payé. Il ne se faisait pas remettre du fric, pas du tout. Mais à cause de sa passion anti-républicaine, il dénonçait un certain nombre de gens qu'il estimait dangereux pour le gouvernement. Une de ces dénonciations qui m'avait le plus irrité était celle d'un juge de paix dont il disait « doit être surveillé de près car il pousse les jeunes filles à ne pas se marier à l'église ». C'est mignon, hein, quand on pense que Vigny était un agnostique, qu'il a écrit l'admirable strophe du silence, vous savez, sur Dieu. Le juste opposera le dédain à l'absence et ne répondra plus qu'à un froid silence, au silence éternel de la divinité. C'est très beau, et je dis que c'est très beau. Mais alors un monsieur qui écrit ça, il n'a pas le droit de désigner quelqu'un à la surveillance de l'État en disant « il ose pousser les jeunes filles à ne pas se marier à l'église ». Alors évidemment, j'ai fait un bouquin violent, qui s'appelait donc « Monsieur de Vigny, homme d'ordre et poète ». Ce bouquin était en deux parties inégales. L'homme d'ordre, il y avait ce que je viens de vous dire et autre chose. Il y avait 30 pages. Puis il y avait 200 pages sur le poète, parce que dans des manuscrits dont je vous parlais, dont j'ai servi d'intermédiaire pour la vente à la Bibliothèque nationale, il y avait des tas de documents littéraires du plus haut intérêt. Alors figurez-vous que parce que j'ai fait ces trois bouquins, au total j'en ai fait, je sais pas compter, mais enfin, 30-35 bouquins, parce que j'ai fait trois bouquins hostiles, je suis devenu, paraît-il, systématiquement, l'homme que l'on désigne comme l'iconoclaste, comme celui qui se déchaîne contre les statues. C'est pas vrai. Je suis très content de rétablir la vérité. Quant à la place d'une légende fâcheuse, je peux mettre une vérité glorieuse. Quant à la place d'un Victor Hugo imbécile, je peux mettre au contraire un Victor Hugo noble. Quant à la place d'un Zola qu'on m'avait décrit enfant comme un pornographe et comme un mauvais français, je pouvais mettre au contraire un Zola pas du tout pornographe, anti-pornographe, et très décidé à défendre ce que la France avait de meilleur en elle-même. Je suis très content quand je peux substituer, vous dis-je, une vérité belle à une légende mauvaise. Mais je dois ne pas hésiter non plus à substituer une vérité triste à une légende trop belle. Je ne suis pas un iconoclaste, je suis un homme passionné de vérité. Je ne peux pas supporter le mensonge. Il y a des tas de mensonges en histoire littéraire et des tas de mensonges en histoire. C'est dans ce sens-là que j'ai travaillé.
Donc, après avoir cherché à rétablir la vérité en littérature, vous vous êtes intéressé à l'histoire. Pourquoi ?
Eh bien voilà, j'ai été amené à l'histoire obliquement, vous allez voir comment. Lamartine. Eh bien, il n'y a pas moyen de connaître vraiment Lamartine si on ne sait pas son rôle politique. J'y ai fait une brève allusion tout à l'heure, avant Jocelyn 1836, et j'avais étudié la politique de Lamartine au lendemain de la Révolution de Juillet, et ça m'avait déjà bien intéressé. Mais comme je voulais avoir une idée générale du personnage, j'ai été obligé d'étudier quoi ? 48 ! Parce qu'en 48, il a été pratiquement le chef de la France. Alors j'ai été conduit par Lamartine à faire un bouquin que j'ai fait, que j'avais appelé d'abord La tragédie de 48. Je l'ai refait sous une deuxième forme dans la collection des 30 journées qui ont fait la France. J'ai intitulé ça, je crois, La première résurrection de la République, 1848. Hugo. Quand je travaillais sur Hugo, comment comprendre Victor Hugo si on ne sait pas pourquoi il s'est déchaîné dans les châtiments ? Pourquoi il a écrit Napoléon le Petit ? Pour comprendre le Victor Hugo des châtiments et Napoléon le Petit, j'étais obligé, obligé d'étudier le 2 décembre. Et j'ai fait un livre qui s'appelle en effet « Le coup du 2 décembre » pour montrer ce que ça avait été et le contre-coup que ça pouvait donner chez un homme comme Victor Hugo. Quand j'ai étudié Zola, je suis parti du Zola écrivain, du Zola des Rougon-Macquart. Mais je ne pouvais pas ne pas rencontrer aussi le Zola de l'affaire Dreyfus. Alors j'ai étudié l'affaire Dreyfus. Ce qui vous montre que sur trois plans, trois fois, c'est l'histoire littéraire qui m'a conduit à l'histoire tout court. Mais il m'est arrivé plusieurs fois, et maintenant je suis en plein là-dedans, d'étudier l'histoire en elle-même, de ne plus me préoccuper d'une introduction littéraire, mais d'étudier pour elle-même. C'est ce que j'ai fait par exemple pour la guerre de 1870, lorsque j'ai fait trois volumes dans la perspective de la Commune, pour expliquer comment la politique intérieure qui se passait en 70-71 amenait presque obligatoirement l'insurrection de la Commune. Et puis j'ai fait un dernier bouquin d'histoire qui s'appelle « Nationalistes et nationaux », qui n'a aucun substrat littéraire, qui est uniquement de l'histoire, et j'ai l'intention du reste de poursuivre dans cette voie.
Mais votre approche de l'histoire pose finalement le problème de l'objectivité historique. Ah, y a-t-il...
Terrible sujet, allez-y.
Y a-t-il une histoire ? Est-ce qu'on fait l'histoire ? Ou bien encore, au-delà des faits, y aurait-il une lecture des faits ? Parce que si l'on se penche seulement sur les titres de vos ouvrages... Je choisis le coup du 2 décembre, cette curieuse guerre de 70, l'énigme Esterhazy, l'arrière-pensée de Jaurès, Napoléon tel quel, Jeanne dite Jeanne d'Arc. Le moins qu'on puisse dire est que vous opérez au minimum une remise en question de ce qu'aucun considère comme acquis.
Oui,
vous laissez donc supposer, non pas qu'il s'est passé autre chose, mais qu'on peut certainement le rapporter autrement.
C'est ça. Vous avez prononcé un mot assez terrible, le mot d'objectivité. Y a-t-il une objectivité dans l'histoire ? Ben, je vous dirais carrément non, je n'y crois plus du tout. Il y a peut-être moyen, quand on était des Sumériens, de ne pas être passionné. Mais dès qu'on traite des histoires plus contemporaines, dès qu'on parle de choses, même comme l'histoire romaine ou l'histoire grecque, qui ont des retentissements, même incertains, sur la vie contemporaine, il n'y a pas moyen d'être objectif. Alors je trouve que la loyauté est de dire qu'on ne l'est pas. À savoir, comprenez-moi bien, qu'on n'est pas impassible, qu'on n'est pas simplement un témoin qui rapporte sans s'en faire des faits qui lui sont étrangers. Mais, à côté de cette non-impassibilité, il y a une loi fondamentale qui est la loi de la loyauté. Alors voilà ce que j'essaye de faire. Je dis carrément ce que je pense. Je dis nettement pour qui je suis. J'ai été très ému quand j'ai lu dans l'histoire socialiste de la Révolution de Jaurès une petite phrase où lui-même parle de cette fameuse objectivité sans employer le mot, mais en disant ceci, je crois pouvoir vous citer exactement. « Ces grands morts nous interpellent. Es-tu avec moi ? Es-tu contre moi ?» Ben, je sais très bien quand je fais de l'histoire avec qui je suis et contre qui je suis. Alors ça, je le dis, je le laisse s'entendre parfaitement parce que je n'aime pas la fausse objectivité, je n'aime pas l'impartialité menteuse. Qui ? Ben, Bainville, par exemple. Jacques Bainville est un écrivain au Fonds d'Action Française, vous le savez bien, mais qui prenait l'allure de quelqu'un d'absolument froid, même glacé, et qui faisait semblant de rapporter des faits auxquels il ne participait pas. Alors si vous lisez bien des phrases de Jacques Bainville, vous apercevez que l'éclairage des faits ou le choix des mots comporte presque toujours... quelque chose de sous-entendu, de latent, mais qui est visiblement orienté. Eh bien, au lieu de faire semblant de ne pas orienter, j'avoue que je suis orienté. Je dis ça, je n'aime pas, ça, j'aime. Mais la loi fondamentale, c'est de ne rien dissimuler de ce qui vous gênerait. Tenez par exemple, à propos de Robespierre. J'aime beaucoup Robespierre, mais je suis obligé de dire qu'il y a des aspects de Robespierre qui me déplaisent. Pourquoi est-ce que Robespierre s'est acharné, par exemple, sur ce prêtre apostat, qui s'appelait Jacques Roux, qui était un enragé, comme on disait à ce moment-là, qui était un hubertiste. Il l'a vraiment persécuté. Il a été emprisonné, on l'avait relâché, il l'a refait mettre en prison. Le malheureux type a fini par se suicider en prison. Puis il y a d'autres aspects de Robespierre, selon son côté orgueilleux, évident, qui m'agacent. Jamais je ne songerai à dissimuler ce qui me gêne chez quelqu'un. Parce que, je vous le répète, la première grande loi, c'est d'être honnête. C'est de dire la vérité. Victor Hugo, il y a aussi des choses chez lui qui me gênent. Et Dieu sait que je suis à 95% pour lui. Et en même temps, il y a une mise en scène, en même temps, il y a de temps en temps une préoccupation de se pousser, de se mettre en avant, et même un peu ridiculement, comme en 1870, avec son képi du siège. Il faut le dire. Mais ma grande préoccupation, c'est de renverser les légendes dont on nous a écrasées, soit, comme je le disais tout à l'heure, en histoire littéraire, soit en histoire, et de leur substituer une vérité quelquefois cruelle, mais comme disait Robespierre, c'est pas moi qui suis coupable, c'est la vérité qui est coupable.
Vous dites « je m'occupe d'histoire ». Vous considérez-vous vous-même comme un historien ou comme un commentateur ?
Revenons un peu en arrière. Tout à l'heure, vous m'avez parlé d'une lecture des faits. Il me revient à l'esprit la Révolution. Les faits de la Révolution, interprétés par Michelet, ou tels que je les vois, ce sont les mêmes. Et cependant, ma lecture en est différente. Tenez par exemple la Fédération. J'en parlerai peut-être occasionnellement. La Fédération, pour Michelet, c'est une grande fête nationale où les Français prennent le sentiment de leur patriotisme. La vérité est tout à fait différente. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. On avait constitué à l'intérieur de Paris d'abord, sous la pression de Lafayette, une espèce de milice auxiliaire pour faire tenir tranquille les petites gens. Au mois de juillet et d'août 1789, il y a eu des châteaux qui avaient flambé parce que les paysans attendaient que l'on supprimât leurs dîmes au clergé et leurs droits seigneuriaux, féodaux, et ça ne se faisait toujours pas. Alors ils s'étaient soulevés. Si bien que des gardes nationales s'étaient également établies en province et dans la campagne, elles aussi pour faire tenir tranquille les misérables, les petites gens. Et bien, la fédération, ça a été la réunion armée, pour la première fois armée, de tous ces délégués des gardes nationales qui disaient aux citoyens passifs, nous, nous sommes la force, hein. Nous avons les canons, nous avons les fusils, alors vous ne bougez pas. Si bien que ma lecture, comme vous dites, ma lecture de la Fédération ne ressemble pas à celle de Michelet. Quand Michelet vous parle aussi de la nuit du 4 août, et qui dit que ça a été un moment extraordinaire, ça a été 1000 ans de féodalité abolie en quelques heures, mais c'est qu'il n'a pas bien regardé les textes. S'il avait vu les textes, il s'est aperçu que, qu'est-ce qu'ils ont proposé, les seigneurs? Ils ont proposé de rendre rachetables, vous entendez bien, rachetables les droits féodaux. Et on leur a fait croire tout de suite que les droits féodaux sont abolis. Autre exemple, Jeanne d'Arc. Vous savez que j'ai été extrêmement pris à partie par une spécialiste qui a pourtant très bien travaillé sur Jeanne, parce qu'elle a estimé que j'avais dit toutes sortes de bêtises. Et il est vrai que j'en ai dit. Je me suis trompé sur des points de détail, mais tout de même assez important, je me suis lourdement trompé au propos du sacre, confondant deux noms propres, Saint-Rémy et Saint-Denis. Mais qu'est-ce que j'ai voulu apporter au sujet de Jeanne d'Arc? Ceci. Primo, le procès de Jeanne d'Arc est un procès régulier, un procès de l'Inquisition. La tradition veut, et c'est ce qui était répété encore par ces deux dames, si on veut que ce soit les Anglais d'une part et l'évêque Couchon tout seul d'autre part qui soient responsables, c'est pas vrai. Il y avait un délégué de l'Inquisition, ce qui fait que Rome, que l'Église catholique était en plein dans le coup. C'est du reste la réhabilitation qui est venue de Rome, par conséquent le premier procès est un procès régulier, d'un tribunal régulièrement et canoniquement constitué, ces deux mots sont entre guillemets, ils ne sont pas de mots, ils sont de Jean Guiton. Deuxièmement, on nous affirme aussi que Jeanne a eu tout un peuple en armes derrière elle, qu'elle est le symbole d'une insurrection nationale contre l'étranger, ce n'est pas vrai. Il faut savoir qu'elle n'a jamais eu derrière elle que quelques mercenaires et que quand elle a été prise à Compiègne, vous savez qui elle avait derrière elle? Elle avait 200 routiers, on appellerait ça aujourd'hui les affreux, des mercenaires qui étaient disponibles pour qu'ils les achèteraient. Elle avait mis de l'argent de côté, elle avait environ, dit-elle, 12 000 livres. Elle s'est acheté des routiers, qui? Des Italiens, des Piémontais, commandés par un capitaine qui avait un nom de revolver qui s'appelait capitaine Beretta. Et bien c'est avec ces Italiens qu'elle a été prise. Derrière elle, il n'y avait personne. Il n'est pas vrai qu'il y ait eu une France en armes derrière Jeanne. C'est ce que Michelet a répondu, c'est ce que M. Claudel a répondu lui-même. Ce n'est pas vrai. Donc je trouve que quand on est en présence d'un fait, il faut d'abord cerner ce fait, voir exactement ce qu'il est, aller aux sources, étudier le document, voir ce que nous savons sur ce qu'on appelle un fait établi. Je ne dis pas qu'il faut renverser le fait, je vous dis qu'il faut le comprendre dans sa vérité, dans son ambiance, son entourage, dans son environnement. Qu'est-ce que c'est que ce fait? Alors bon, il y a une lecture différente du fait. Mais il y a aussi, je l'avoue et je viens de vous le dire tout à l'heure, il y a aussi la participation ou la non-participation. Eh bien, je participe. Évidemment, je ne suis pas un créateur, hein, je suis un commentateur, c'est un mot que je souligne. Qu'est-ce que c'est qu'un créateur? Ben, c'est un romancier, c'est un poète. Je n'ai pas d'imagination, je ne suis pas un romancier, je ne suis pas un poète. Qu'est-ce qu'un historien maintenant? Est-ce qu'un historien est un créateur? Attention, je sais bien que Michelet se vantait d'être un créateur. Mais dans la mesure alors où l'historien fait intervenir son imagination, il n'est plus historien. Je suis, pardonnez-moi, beaucoup plus modeste que Michelet. Je me dis, on ne peut avancer que pas à pas au millimètre. Hein. Alors là, je suis en effet un commentateur. Mais je voudrais, voyez-vous, je voudrais, c'est ma grande ambition, que là où j'ai passé, pardonnez-moi, il en reste une trace, que les travaux que j'ai pu faire sur Vigny, ou sur Lamartine, ou sur Victor Hugo, ou sur quelques autres, aient un peu changé le site. Qu'on puisse dire que ce commentateur de Guillemin a tout de même fait avancer un tout petit peu l'histoire littéraire et l'histoire tout court. C'est dans ce sens que je veux espérer que mon rôle de commentateur n'aura pas été un rôle inefficace.
C'était le premier volet d'une série d'entretiens avec Henri Guillemin, menée par Geneviève Guichenet et diffusée pour la première fois le 26 avril 1976. Tout de suite, le deuxième moment de cette rencontre.
Danton et Robespierre, ces deux noms sont inséparables d'un mot lourd de signification, la Révolution. Avant d'opposer les comportements de Danton et de Robespierre, ne pourrait-on rappeler de quels affrontements cette Révolution a été faite?
Bien sûr. Je voudrais partir d'un mot de Michelet qui m'a toujours fait un peu sourire. Comme Michel a dit, le mouvement de 89 fut un mouvement désintéressé, ce fut là son côté sublime. Ben, il n'en est rien, vous en doutez bien. Voyons de quoi est-ce qu'il s'agissait au XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle. Ben, au cours de ce XVIIIe siècle, s'était créée en somme en France une classe nouvelle, qu'on appellera, si vous voulez, la richesse mobilière par opposition à la richesse immobilière. La richesse immobilière, quoi, c'est les grands propriétaires, c'est donc l'Église à l'aristocratie. La richesse mobilière, c'est les grandes banques qui commencent à se développer, les grandes assurances qui étaient très importantes, et puis le grand commerce. Alors là, il y avait en effet une nouvelle classe qui venait de se constituer, très riche, très importante, très puissante, mais justement puissante économiquement, non politiquement. Et un des clients de cette nouvelle classe, qui était l'avocat Barnave, avait prononcé en 88, je crois, les mots que voici, une nouvelle distribution de la richesse appelle, c'est-à-dire exige, une nouvelle distribution du pouvoir. Autrement dit, ces gens-là, enfin, cette nouvelle classe, estimaient qu'ils ne pouvaient pas laisser ce qu'on appellerait aujourd'hui les leviers de commande aux mains de l'aristocratie. Alors le mouvement de 89 a été en réalité, et avant tout, l'effort de cette nouvelle classe, la grande bourgeoisie, pour déloger de ses positions dominantes l'aristocratie. C'est donc pratiquement, et en fait, réellement, enfin, il faut regarder les choses en face, c'est une rixe de possédants, hein, c'est une bagarre de nantis, mais sur le dos de la cariatide. La cariatide, c'est 99% des Français. C'est les travailleurs, surtout travailleurs des champs, et aussi travailleurs d'usines plus nombreux qu'on ne le croit. Alors il s'agissait de les maintenir sur cette sujétion totale, hein, il ne fallait rien bouger. Au point que, on va décider, vous le savez bien, c'est Sieyès qui en a été l'inventeur, de diviser les Français, qu'on appelle maintenant des citoyens, entre deux catégories. Il y aura les citoyens actifs et il y aura les citoyens passifs. Qu'est-ce que ça veut dire, citoyen actif ? Eh bien, ça veut dire un type qui vote, quoi, qui a le droit de prononcer sa parole, de dire son mot dans la gestion des affaires nationales. Mais alors, appeler citoyens les passifs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'autre chose à faire qu'à obéir, et à accepter les directives des actifs, c'est une plaisanterie. Enfin, c'est un chef-d'œuvre d'humour noir de parler encore de citoyens pour des gens qui n'ont absolument aucun droit, aucun pouvoir. C'est ça, le fondement de la Révolution. Hein. Pensez donc que Lafayette, le 17 juillet 91, va faire une chose épouvantable. Je trouve que dans les manuels scolaires, voyez-vous, on nous parle toujours du 14 juillet 89, du 14 juillet 90 à cause de la Fédération, mais on pourrait parler aussi du 17 juillet 91. Parce que le 17 juillet 91, les citoyens actifs, c'est-à-dire la grande bourgeoisie, va tirer, pour la première fois, va tirer sur le peuple. Il s'agissait, vous savez, c'était l'agitation de Paris à cause du départ du roi qui avait tenté de se sauver. On l'avait ramené, il avait fait croire qu'il avait été enlevé, alors qu'en réalité, il voulait retrouver à Montmédy des troupes pour revenir sur Paris dans un orage de fer et de feu, et pour rétablir 1788, quoi. Alors, comme il y avait une partie des citoyens passifs qui n'acceptaient pas, ils avaient ouvert, vous le savez bien, au Champ de Mars, un registre sur lequel on demandait la déchéance du roi. Alors, il s'agit de rappeler à ces gens-là qui n'ont pas le droit d'ouvrir la bouche, hein, que les citoyens passifs n'ont qu'à obéir. Des citoyens passifs qui se permettent de demander la déchéance du roi, c'est monstrueux. Déjà, si on comprend ce qu'avait été la Fédération le 14 juillet 90, on nous fait croire, à la suite de Michelet, que ça avait été la première prise de conscience de l'idée nationale. Mais qu'est-ce que c'était que la Fédération ? C'était la Fédération des gardes nationales. Et les gardes nationales, c'était des groupements armés, c'était la bourgeoisie pensée dans des fusils pour faire tenir tranquilles les pauvres. Alors quand brusquement ces pauvres se mêlaient de ce qui ne les regardait pas, on les tuait. Vous savez qu'il y a environ 1000 tués ce jour-là. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une différence totale entre ce qu'on appelle le mouvement de 89 et ce qui va se passer le 10 août 92. Parce qu'avec l'insurrection de la Commune de Paris, la Commune insurrectionnelle de Paris, tout à coup c'est ce quatrième état, enfin, ce sont ces citoyens passifs qui disent « mais on a notre mot à dire ». À ce moment-là, c'est la République. À ce moment-là, c'est la suppression du sens. La distinction entre citoyens passifs et citoyens actifs qui reposait sur des questions d'argent va être abolie. Et enfin, on va pouvoir faire ce que Robespierre demandait depuis 1788 dans ce espèce de petit tract, on appellerait ça un tract aujourd'hui, quand il était candidat aux états généraux, où il disait « la plus grande partie de nos concitoyens est aujourd'hui réduite par l'indigence à ce dernier degré d'asservissement où l'homme, uniquement occupé de survivre, est incapable de penser aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. Réfléchir aux causes de la misère. Vous vous rendez compte de ce que c'est, quoi. Aujourd'hui, on dirait que c'est de la dynamite. Demander aux gens de réfléchir pourquoi ils sont des malheureux, eh ben, c'est ça qui était la grande idée de Robespierre. Et on va voir l'affrontement entre Robespierre et Danton sur cette question fondamentale du droit des gens à dire la vérité et à protester contre l'asphyxie.
Henri Guillemin, traditionnellement, on oppose Robespierre, cuistre glacé et sans âme, et aux mains sanglantes, à un Danton qui est moins incorruptible peut-être, mais plus chaleureux, plus humain en quelque sorte.
Oui, c'est la tradition, c'est ce qu'on m'a appris dans mes classes, et quand j'étais jeune, il y avait cette grande bagarre entre Aulard et Mathias, les deux professeurs de la Sorbonne, Aulard le dantoniste, Mathias le robespierriste. J'ai remarqué aussi, à force d'étudier les choses, que la tradition s'était répandue hors de France, puisqu'un homme comme Bakounine considérait que Danton était le révolutionnaire type. Et il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé un texte de Lénine qui exalte aussi Danton à la place de Robespierre. Bon, d'autre part, vous avez parfaitement remarqué, tout le monde le sait, que Robespierre n'a pas de place à Paris, n'a pas de statue à Paris. Je crois que Danton en a deux. D'où ça vient ? Eh bien, je voudrais essayer de regarder du plus près possible ce qu'était le personnage de Danton. Et d'abord, je voudrais vous dire ceci, que si on a ri de Robespierre, de son vivant, en disant qu'il était fasciné par Jean-Jacques Rousseau et qu'au fond, c'est un homme qui répétait le contrat social, on était bien embarrassé de dire par quoi était fasciné Danton, étant donné qu'il n'avait pas, il n'avait vraiment pas de doctrine. Un des documents les plus importants sur Danton a été publié sous la Restauration, c'était Lamette, Alexandre de Lamette, je crois ne pas me tromper sur le prénom, qui connaissait bien Danton et qui a publié des souvenirs. Eh bien, on entend Lamette raconter que Danton lui disait à lui-même « leur république de Visigoth, leur sale démocratie ». Ce sont de curieux mots dans la bouche de ce fameux Danton. Voyez-vous, je ne crois pas qu'il faille se fasciner sur les questions de corruptibilité ou d'incorruptibilité. Néanmoins, quand on regarde la carrière de Danton, on s'aperçoit que c'est un garçon qui a fait beaucoup d'argent pendant la Révolution. Je sais bien qu'il avait une raison normale sur laquelle Ollard a insisté et que les acquisitions dont je vais vous parler tenaient à une source légitime. Mais en fait, c'est tout de même curieux que dans l'année 91 et 92, on voit Danton qui acquiert, à peu d'argent c'est vrai, grâce aux biens nationaux, un vaste domaine qui s'appelle Nuisement, un prieuré qui s'appelait Saint-Jean-du-Chêne, une gentilhommière qui était au centre d'Arcy-sur-Aube, et le document considérable qui a été révélé par Mathiez, je vous le connaissez sans doute, c'est une fameuse lettre de Mirabeau à Lamarck du 9 mars 91. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, Mirabeau, la question est réglée, on le sait depuis très longtemps, c'était un vendu. Ben, on sait qu'il avait trouvé 200 000 livres cash de la cour pour continuer à faire semblant d'être gauchiste et à faire la politique de la cour. Mais c'est Mathiez qui a trouvé une lettre de ce Mirabeau, peu de temps avant sa mort, 9 mars, il va mourir au début d'avril, à Lamarck, et Lamarck, c'était le gérant, oui, on peut dire gérant, je crois, de la liste civile de Louis XVI, qui était une grosse liste civile, 25 millions, comme vous savez. Eh bien, ce 9 mars 71, Mirabeau, écrivant à Lamarck, disait « Sur vos instructions, hier, j'ai remis à M. Danton la somme de 30 000 livres. Pour l'époque même, c'était une somme considérable. » Alors ce document que nous avons sous les yeux établit que Danton est un type qui était, comme Mirabeau, vendu à la cour. Et ça, c'est tout de même très grave. Hein. S'il avait fait quelques malversations, comme il en a fait certainement avec Dumouriez, puisqu'il allait revenait tout le temps entre Paris et la Belgique, parce que Dumouriez faisait des razzias dont bénéficiait Danton, c'était moins grave qu'un Danton qui vend sa conscience et qui travaille au profit de la cour. Troisièmement, voyez-vous, ce qu'on pourrait dire sur la vénalité de Danton, c'est ceci qui est infiniment plus grave que tout, c'est que Danton est un homme qui considère la Révolution avant tout, à mes yeux, enfin je l'ai bien étudié, comme une eau trouble et eau trouble égale bonne pêche. Alors vous comprenez qu'il n'y a pas moyen, comparant Danton à Robespierre, d'oublier qu'avant tout, la Révolution pour Danton est une manière de se pousser.
Néanmoins, Danton a été l'homme de la défense nationale. C'était lui qui disait de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace.
Eh bien oui, c'est évidemment ça qui est resté de lui. Ben, il faudrait encore regarder de près. Alors je vais vous dire comment je vois les choses. À quel moment a-t-il parlé de l'audace ? Eh bien, c'était en septembre 92. Septembre 92, il est ministre de la Justice, le dissous vient de se produire. Vous savez que le dissous, c'était un fameux tumulte, hein, on ne se rend pas compte assez. Et puis il y avait les massacres de septembre, du début de septembre. Enfin, il y avait une épouvantable, énorme agitation dans Paris. Danton est un gars qui se méfie de cette petite plèbe qu'il a contribué à soulever, et il a horriblement peur qu'on en arrive à une révolution sociale où lui-même serait ainsi compromis. J'ai oublié de vous dire qu'il avait déjà une bien belle propriété à côté de Paris, qui venait de son premier mariage avec la fille d'un cafetier, on parlait de la cafetière, c'était à Sèvres qu'il était installé, et il avait peur, je crois, il avait profondément peur d'une subversion sociale. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, à ce moment-là, les Prussiens avançaient, hein, le corps expéditionnaire de Brunswick, vous savez. Alors quand il dit « audace, toujours de l'audace, encore de l'audace », ça veut dire « volontaire, engagez-vous ». Et dans sa pensée, ces volontaires qui vont partir pour la frontière, ça sera autant de moindres révolutionnaires à Paris. Hein. C'était des gars dangereux, c'était de la petite plèbe, la plèbe crasseuse, c'était, si vous voulez même, quoi, les sans-culottes. Eh bien, ils voulaient dégorger Paris. Hein. Avant tout, ils voulaient faire une épuration normale, par le patriotisme, quoi, afin que Paris ne soit pas encombré de gens qui lui paraissaient horriblement dangereux. Premier point. Et deuxième point, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour ce combat, pour Valmy, hein? Eh bien, il faut savoir que Valmy, et je suis très étonné qu'un homme comme De Gaulle, par exemple, dans son livre sur la France et son armée, parle d'un triomphe de la manœuvre à Valmy. Il n'y a pas eu de manœuvre. C'est pas moi qui invente de dire qu'il n'y a pas eu de bataille de Valmy. Vous savez bien, il y a eu les Prussiens d'un côté, il y a les Français de l'autre. On a échangé des coups de feu, surtout des coups de canon. Il n'y a jamais eu de corps à corps, jamais eu de mouvement. Alors on raconte l'histoire que les Français ont mis au bout de leur baïonnette leur chapeau en criant « Vive la nation !» et que ça suffit aux Prussiens pour perdre la tête et pour s'en aller. Il est à peu près certain aujourd'hui qu'il y a eu un arrangement entre Danton et Brunswick. Brunswick va faire tourner Cadac à ses troupes, va les faire repartir, sous prétexte d'une dysenterie, qui je crois était assez grande dans les rangs de l'armée prussienne. Mais enfin, il ne suffisait pas de la dysenterie pour que brusquement les Prussiens, les Austro-Prussiens, évacuent le nord-est de la France. Tout ça avait été combiné par Danton, parce qu'il savait parfaitement que même avec les volontaires qui n'étaient pas encadrés, il n'y avait pas moyen de remporter un succès militaire. Alors il prenait l'attitude du grand patriote et du chef de combat, alors qu'en réalité en douce, il négociait pour qu'il n'y ait pas de guerre réelle. Voilà ce qu'il faut savoir. Alors il y a une mise en scène patriotique de Danton que l'histoire vraie est obligée de contredire et de renverser.
Mais dans les faits, en ce qui concerne plutôt la politique intérieure, alors après Valmy, lorsque Robespierre, à partir de juillet 1993, est au pouvoir, Danton a-t-il ou non travaillé contre lui?
Vous me posez une très bonne question. D'abord, il faut savoir comment les choses s'étaient passées. Hein. Lorsque la situation intérieure devenait très dramatique, c'est-à-dire en avril 1993, après la trahison de Dumouriez, Danton avait fait créer, vous le savez bien, le premier comité de salut public, dont il était membre. La situation devenait de plus en plus dramatique. Il y avait les Girondins qui, avec les royalistes, avaient mis en insurrection 60 départements sur 90. Il y avait une agitation affreuse du côté de l'Ouest, enfin la Vendée. On avait envoyé là des soldats qui n'étaient pas des soldats, qui étaient des volontaires à 500 livres, c'est-à-dire des types qui étaient bien payés pour aller se battre et qui ne se battaient pas. Si bien que le 10 juillet 93, lorsqu'il s'agissait de renouveler, parce qu'il était renouvelé tous les mois, le comité de salut public, Danton s'écarte. Hein. Il s'écarte pour une raison amusante, et qui réussit auprès de ses camarades, il dit, écoutez, je viens de me remarier, c'était vrai, j'étais remarié en juin, elle a 15 ans et demi, ma petite femme, alors il faut que je lui apprenne beaucoup de choses, alors donnez-moi une petite tranquillité, quoi, pour ma nuit de noces et pour ma lune de miel. Et ben, les gens acceptent. En réalité, ils se défilent, hein. La situation intérieure, c'est tellement grave qu'il ne veut plus être mouillé là-dedans. Et il dit lui-même, mais il y a quelqu'un qui peut me remplacer, c'est Robespierre. Pourquoi? Parce qu'il le jette à un moment où la situation est affreuse. Or, Robespierre va redresser la situation. Alors, vous pensez bien que Danton n'a qu'une idée, c'est de le faire tomber. Alors, je vais vous raconter trois trucs qu'il a fait. Je m'excuse, je vais être là 5 minutes de laïus, mais enfin, il faut que je vous raconte ça. Hein. Les trois trucs, ça a été d'abord ceci. Lorsqu'il est arrivé à Paris la nouvelle de ce qui se passait en Provence, où la flotte française, commandée par deux amiraux, l'un qui s'appelait Chausse-Gros, l'autre qui s'appelle Trogoff, avait trahi à son tour, comme Dumouriez et comme Lafayette. Lorsque, grâce à cette trahison des amiraux, des Anglais avaient débarqué en Provence, la nouvelle, il y avait à Paris le 1er septembre 1993, grosse émotion. Bon, on dit, il y a déjà les Austro-Prussiens qui sont au nord de la France, il y a la Vendée et la Normandie qui est soulevée. Voilà maintenant qu'au sud, en Provence, les Anglais sont là. Alors Danton réunit tout ce qu'il peut de plèbe, de foule, sur la place de Grève, et il dit, je demande une troisième révolution et je demande aussi une tête par jour. Qu'est-ce qui me fait réfléchir un peu? Qu'est-ce que ça peut signifier, une troisième révolution? Étant donné qu'en 89, il y a eu une première révolution que nous appellerons plutôt une réforme, c'est-à-dire la bourgeoisie qui prenait la place de l'aristocratie, puis il y a eu le 10 août, la véritable révolution, avec République et avec suffrage universel. Troisième révolution, en septembre 93, ça n'avait aucun sens, sinon anarchie. Sinon, comme je vous le disais tout à l'heure, au trouble égale bonne pêche. C'est une situation extrêmement dramatique pour Robespierre, qui voit une partie de la foule contre lui. Mais il y a un type qui va lui sauver la mise, c'est Chaumette. Vous savez, Chaumette qui était l'adjoint d'Hébert à l'hôtel de ville, et qui va expliquer aux gens, ne faites pas ça. La convention a une peur horrible, et Robespierre va profiter de cette peur des conventionnels pour faire voter le maximum, c'est-à-dire le maximum des denrées, dont ne voulait pas la grande majorité de la convention. Premier point, Danton a raté. Deuxième coup, et ça c'est Soboul qui nous l'a révélé. Vous savez, Soboul est un admirable connaisseur de la Révolution et qui a fait, dans un énorme bouquin d'abord, sa thèse de 1200 pages sur les sans-culottes parisiens de l'an 2. Et puis il a fait un petit bouquin excellent qui s'appelle La Première République. Et bien, Soboul nous a révélé que ce mouvement qu'on a appelé la déchristianisation, et que j'avais cru à un moment venir des profondeurs du peuple par une espèce de haine trop explicable du comportement du clergé, c'est Soboul qui nous a révélé, lui qui est un incroyant et qui est un marxiste, que c'est une invention de Danton. Danton savait que Robespierre était eudéiste, il disait qu'il vivait dans une jésuitière, ce qui n'était pas tout à fait vrai. Et alors il avait inventé d'essayer de susciter un mouvement, on en trouve toujours quand on paye les gens, pour casser des statues et pour fermer des églises et pour faire de la déchristianisation. Et il s'était dit, je vois venir mon Robespierre, Robespierre ne voudra pas, il va s'opposer à cette politique et je pourrais le dénoncer comme un curé, comme un réactionnaire. Eh bien, de nouveau, ça ne va pas marcher, parce que Danton ne va obtenir que très peu de succès du côté de cette déchristianisation. Soboul est allé regarder tous les documents parisiens, vous savez, les procès-verbaux de ces réunions qui se tenaient, les militants, quoi, il y en avait tout le temps. Pas une fois, dit Soboul, pas une fois, aucune fois, jamais, je l'ai trouvé, dans un procès-verbal de réunion révolutionnaire, un désir de déchristianisation profonde. Ça ne marche pas, Danton s'aperçoit que ça ne rend pas, qu'une partie de la Convention ne le suit pas, et c'est lui-même qui va dire « j'en ai assez de ces mascarades anti-religieuses ». Parce que là encore, ça a loupé. Mais le troisième temps, le plus grave de ce qu'il a fait contre Robespierre, Troisième temps, c'est ceci, c'est quand, au début de décembre 93, il a lancé ce pauvre petit Camille Desmoulins dans une opération destructive. Le même Danton, vous m'entendez bien, le même Danton, qui avait dit « je demande une dette par jour », se frappe la poitrine en disant « maintenant je demande l'économie du sang des hommes ». Et il lance le vieux cordelier avec le petit Camille Desmoulins en disant « il faut ouvrir les prisons, il y a beaucoup de types en prison qui ne méritent pas de l'être ». Ouvrir les prisons, je comprenais bien qu'en effet Robespierre lui-même avait dit, au moment de la cueillette des suspects, on a pris de trop. Deux fois, Robespierre avait déjà demandé que l'on révisât la question des suspects et que l'on libérât ceux qui n'étaient pas réellement des suspects. Mais entre ce triage des emprisonnés et l'ouverture totale des prisons que demandait Danton, il y avait une distance énorme, quoi, à savoir qu'on allait rejeter dans la circulation des quantités d'agents royalistes. C'était donc la destruction de la Révolution que Danton demandait, et il savait très bien ce qu'il faisait. Là, vous voyez qu'en trois temps, Danton a essayé de casser les reins à Robespierre et en fait à la République.
Dans la comparaison qu'on établit entre Danton et Robespierre, il semble plus important, non pas de compter les têtes et de savoir lequel a commis le plus d'horreur, mais de savoir quel but ils servaient lorsqu'ils étaient amenés à commettre ces horreurs. Et finalement, on peut dire que Danton en a peut-être commis beaucoup moins, mais pour un but beaucoup moins grand, beaucoup moins important, puisque c'était lui-même qu'il servait, tandis que Robespierre servait la Révolution. Il reste quand même que le procès de Danton a été affreux, et qu'il n'a pas pu prendre la parole, même si, au bout du compte, cela n'aurait rien changé, à l'issue de ce qu'on hésite quand même à appeler un procès.
Non, ce n'était pas un procès bien ardu. Et là, je ne peux pas défendre Robespierre, parce que Robespierre laissait faire des choses qui étaient en effet extrêmement pénibles et cruelles. Mais je voudrais appeler votre attention sur un fait, à savoir qui a travaillé, qui a conçu, qui a créé le tribunal révolutionnaire. C'est Danton. Alors que parfois, j'avais cru autrefois, avant d'avoir étudié les choses de près, que c'était le terrible Robespierre qui avait voulu faire tomber le plus rapidement possible des têtes pour la terreur. Bien, la terreur a commencé grâce à Danton. Pourquoi? Parce que Danton est parti lié, j'y ai fait allusion tout à l'heure, avec Dumouriez. Parce que le comportement de Dumouriez devenait de plus en plus suspect. Parce que Danton avait besoin, comme on dirait aujourd'hui, de se démouiller, quoi, de se blanchir après s'être aussi tellement compromis que Dumouriez. Alors c'est lui qui a fait créer ce tribunal révolutionnaire qui donnait l'impression du révolutionnaire intraitable pour lequel les grandes questions étaient capitales. Bon. D'autre part, à propos du procès et de l'arrestation d'abord de Danton, je dois vous dire ceci, que Robespierre n'est pas un homme qui se complaît dans le sang. Robespierre est quelqu'un qui a beaucoup de sang sur les mains, c'est vrai, mais qui a cru devoir le faire. Si j'avais à parler de Lénine, je vous dirais qu'il y a un rapprochement assez sérieux entre Robespierre et Lénine à ses dégâts. Bon, quand il a décidé de casser les reins, cette fois, et même la tête, couper la tête à Danton, c'est après déjà avoir essayé de l'intimider quand il avait fait arrêter Fabre d'Églantine. C'était un avertissement. Danton ne veut rien entendre et il continue. Danton va se tenir noblement à son procès, pousser des rugissements en disant « vous ne m'écoutez pas », ce qui était vrai. Se tiendra bien encore, je le crois, c'est vrai, au moment où on lui coupera la tête. Mais il faut savoir que dans les papiers de Robespierre, c'est Mathias qui l'a trouvé, on a découvert ce petit bout de papier qui concernait une visite que lui avait fait Danton, lorsque Danton se sentait menacé. Une visite dont Robespierre disait, et je me souviens encore, des efforts ridicule qu'il a fait pour pleurer devant moi. Voilà un Danton différent de celui que nous voyons d'habitude. Danton jovial, plein de faconde, irritable, violent, pas facile à intimider, et qui tout à coup, devant Robespierre, deviendrait cette espèce d'agneau, brinant, rampant, enfin, qui fait des efforts pour pleurer et pour tenter d'impressionner Robespierre. Ceci est un trait nouveau qu'il faut ajouter au personnage. Maintenant, vous le savez bien que, sur l'échafaud même, il a dit au bourreau, lorsque ma tête sera coupée, vous montrerez ma gueule au peuple, elle en vaut la peine. Il y a du théâtre, si vous voulez, mais en même temps, il y a du courage, de la noblesse. Noblesse, c'est un mot de trop. Je dirais pas noblesse. Et pour terminer, je voudrais vous indiquer ce qui, pour moi, fait une opposition fondamentale entre Robespierre et Danton et pourquoi je préfère passionnément Robespierre. Commençant, on a dû se dire tout à l'heure que c'était un homme fasciné par Jean-Jacques. Voyez-vous, je voudrais faire un rapprochement ici entre des gens dont les noms vous paraîtront surprenants, mis côte à côte. Jean-Jacques Rousseau, d'une part, hein, Robespierre et Jaurès. On ne comprend pas, à mon sens, on ne comprend pas la politique même d'un Jaurès ou la politique de Robespierre si on ne voit pas leur arrière-plan. J'ai fait un bouquin qui s'appelait « L'arrière-pensée de Jaurès » parce que Jaurès a expliqué lui-même, au chapitre 10 de l'Armée Nouvelle, dépassant le plan et de l'Armée Nouvelle et du socialisme et parlant philosophie, il a dit ceci. « J'ai sur ce monde si cruellement ambigu une arrière-pensée sans laquelle la vie de l'esprit me paraissait à peine tolérable à la race humaine. » Je répète parce qu'elle est intéressante la phrase, hein. Sur ce monde si cruellement ambigu, une arrière-pensée sans laquelle la vie de l'esprit me paraîtrait à peine tolérable à la race humaine. Ben, l'arrière-pensée de Jaurès, c'est l'arrière-pensée de Robespierre, c'est l'arrière-pensée de Jean-Jacques Rousseau. À savoir qu'il ne suffit pas de réforme de structure, qu'il ne suffit pas d'établir la République, qui suffit pas de faire que les écrasés ne soient plus écrasés et que les humiliés ne soient plus humiliés, mais qu'il faut donner à l'homme un nouveau regard sur la vie. On ne comprend pas, je t'assure, on ne comprend pas le contrat social si on n'a pas lu la profession de foi de vicaire savoyard. On ne comprend pas Jaurès si on ne sait pas que c'est un philosophe qui avait dit certaines choses dans son livre qui s'appelle, comme vous le savez, « De la réalité du monde sensible ». Et on ne comprend pas Robespierre si on ne se reporte pas à un discours capital de lui qui s'appelle « Principe du gouvernement républicain », dans lequel il parle de la vertu, je sais bien, et tout à l'heure vous m'en parliez vous-même, ce mot de vertu est un mot qui est devenu aujourd'hui ridicule. Mais pour Robespierre, le mot de vertu avait une signification bien différente de celle que nous lui donnons aujourd'hui. Je voudrais vous apporter, de mémoire, deux très courtes citations de Robespierre qui sont dans ce discours sur les principes du gouvernement républicain. Il allait jusqu'à dire, avec une candeur que j'appellerais pathétique, « Ce que je veux, dit-il, c'est une organisation de la cité où toutes les âmes s'agrandiront. » Oui, il a dit ça. Il a dit encore « Je voudrais une organisation politique et sociale qui permette à l'homme d'accomplir sa destination. » Eh bien, vous savez, entre les mots que je viens de prononcer et les mots de Danton, entre « accomplir sa destination » et cet agrandissement des âmes, et la bassesse de Danton, vous avouerez qu'il y a eu un abîme. Dans l'ordre de l'authentique grandeur, de la hauteur de vue, en fait, de la propreté, de la pureté morale, entre Danton et Robespierre, la distance était une distance d'années-lumière.
C'était le deuxième volet d'une série d'entretiens avec Henri Guillemin, menée par Geneviève Guichenet et diffusée pour la première fois le 27 avril 1976. Tout de suite, le troisième temps de cette rencontre.
Daniel Gillès a écrit récemment « Guillemin est un iconoclaste de profession et d'obsession ». C'était à propos de Tolstoï. Qu'en est-il de votre inimitié à l'égard de Tolstoï ?
Ben, il s'est trompé, Daniel Gillès. Hein. C'est un Belge, et je crois qu'en Belgique, on a produit 13 émissions de moi sur Tolstoï. S'ils avaient entendu, ils se seraient rendus compte que je ne suis certainement pas un ennemi de Tolstoï. Je les connais, les ennemis de Tolstoï. Ben, il y a Gide, au premier rang, qui l'appelle un imposteur, qui dit c'est un hypocrite, jamais il n'a été sincère. Il y a André Suarez, qui avait été d'abord un ami de Tolstoï, et qui, en 1907, dans un des cahiers de la quinzaine de Peggy, a écrit des choses très basses sur Tolstoï. Il y a Stefan Zweig. Et puis, il y a Jean Cassou, je ne sais pourquoi, il est déchaîné. Et puis, il y a même Troya. Troya a fait un énorme bouquin sur Tolstoï, mais véritablement, lorsqu'il parle de la pensée de Tolstoï, il déraille, ou plus exactement, il le déteste, et il le dit. Je suis si peu un ami de Tolstoï qu'en réalité, dans mon cabinet de travail, j'ai plusieurs visages. Hein. J'ai Victor Hugo, j'ai Tolstoï, et j'ai Claudel. Tolstoï... C'était à propos de l'ouvrage de Tatiana que Daniel Gillès avait écrit. Ça. Tatiana Tolstoï, qui est la fille aînée, avait laissé un certain nombre de documents inédits. Il y en avait deux qui avaient déjà paru en russe. Et ce que M. Daniel Gillès a apporté d'absolument neuf, ce sont des souvenirs d'enfance de Tatiana, qui sont intéressants sur la vie russe, sur elle-même Tatiana, mais sur Tolstoï lui-même, peu de choses. En revanche, les deux autres textes qui sont contenus dans l'ouvrage de Tatiana, c'est des... souvenirs épars, des espèces d'éclairs de mémoire qu'elle a sur son père qui sont très intéressants, et surtout un témoignage final sur le drame entre son père et sa mère. Et là, dans ce témoignage final, il est évident que cette petite n'ose pas dire toute la vérité. Elle aimait sa mère, et je ne peux pas lui en vouloir. Cette mère qui avait été si féroce à la fin, nous y viendrons tout à l'heure, contre son père. Alors elle a ténu. Je pense qu'elle cache, et je pense aussi qu'elle ne sait pas tout. Mais ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'elle n'est pas allée en profondeur et qu'elle n'a pas vu le drame profond, la réalité du drame qui s'est développé entre cet homme et cette femme. Et c'est la réalité du drame que je voudrais essayer de pénétrer avec vous.
Alors, puisqu'il y a drame dans la vie de Tolstoï et que finalement, d'après vous, le fond du problème n'a jamais été abordé, quel est le fond du problème ?
Eh bien, vous me posez exactement la question que je souhaitais. Voyez-vous, Tolstoï est un homme curieux en ce sens que la métaphysique l'empêchait de dormir. Et je ne crois pas que ça soit banal. Pensez donc que cet homme, quand il approchait de ses 50 ans, avait tout, on peut dire qu'il avait tout. Hein. Il avait une femme désirable et qui continuait à désirer et qui l'aimait. Il avait des enfants réussis. Il était le plus grand romancier russe. Il avait une fortune considérable, enfin cet type qui était fait pour être heureux. Et il n'était pas heureux. Pourquoi il n'était pas heureux ? Parce que je viens de vous le dire, les problèmes métaphysiques étaient pour lui quelque chose de concret, d'important. Au point que ce qu'il nous raconte, et il n'a jamais menti sur des choses comme celle-là, vers 50 ans, justement, entre 49 et 50 ans, il en était arrivé au point de désirer le suicide, vous entendez bien, le suicide, cet homme comblé, parce qu'il n'arrivait pas à trouver la réponse à une question qui lui paraissait capitale, enfin, pourquoi vivons-nous, et surtout, pourquoi la mort? La mort lui paraissait non seulement une violence indue, comme dit Simone de Beauvoir, mais un scandale, quelque chose d'inadmissible. C'était trop bête, ça lui paraissait trop bête. Alors il s'était posé depuis des années cette question, enfin, pourquoi vivons-nous? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que la vie a un sens? Et il raconte dans un bouquin, il dit, cette question, perpétuellement sans réponse, tombait devant moi comme une tache d'encre sur mon papier. Cette tache d'encre s'élargissait, finissait par faire une espèce de trou, enfin, d'abîme dans lequel j'avais envie de me jeter. Me jeter pour savoir si j'avais raison de me poser la question ou bien s'il n'y avait rien. Alors il nous raconte que c'est vrai, vous savez, quand il allait se promener autour de Yasnaya Polyana, qui était sa maison, qu'il allait chasser, eh bien il essayait de ne plus prendre son fusil, parce qu'il disait, j'avais trop souvent la tentation de mettre le canon de mon fusil dans ma bouche et d'appuyer sur la gâchette. Il avait fait disparaître de son cabinet de travail des cordes qui étaient là, je ne sais d'ailleurs pourquoi, en disant c'était une sollicitation permanente pour me pendre. Et bien voilà que cet homme qui était arrivé au bord du suicide parce qu'il ne trouvait pas une réponse à une fameuse question qui le torturait, avait fini par trouver la réponse. Vous découvrirez ça dans le 7e livre, le 7e chapitre, je crois, d'Anna Karénine. Personnage central, enfin il y a deux personnages masculins, vous savez bien. Mais le personnage qui s'appelle Lévin, tout le monde sait aujourd'hui que c'était lui, Léon Tolstoï, parce que nous disons Léon Tolstoï, et en russe paraît-il ça se prononce Lev, alors il n'y a qu'à ajouter in, Lévin, pour faire Léon Tolstoï. Bon. Mais Lévin est quelqu'un dont il nous a raconté ceci dans Anna Karénine. Que ce Lévin se posait des questions, et puis qu'un jour, comme ça en 78, c'était l'année de ses 50 ans, il était né en 28, alors qu'on se livrait dans la ferme, dans la propriété, à un travail rustique que j'ai oublié, je crois, on battait le blé. Le propriétaire Lévin a entendu un contremaître, enfin, pas un type qui avait une puissance quelconque sur les paysans, qui parlait tout seul. Il était à côté de lui, le barin, le maître, le propriétaire, et puis il a entendu Fiodor qui disait comme ça, à mi-voix, comme se parlant à lui-même, une chose fort simple, mais inattendue tout de même. Et il disait, il y a des gens qui pensent qu'à leur ventre, et d'autres qui pensent à leur âme et à Dieu. Évidemment, ça tombait un peu dénu, cette phrase. Et Lévin, qui était à côté, c'est-à-dire Tolstoï, a été bouleversé. Il a reçu une espèce de commotion, et il raconte, et il ne ment pas, qu'il est parti à grands pas dans les champs, ne sachant pas où il allait. Il dit, des sanglots m'étouffaient. Des larmes de reconnaissance, hein, coulaient sur mon visage, et je répétais machinalement, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il avait compris? Ben, il faut lire les carnets intimes d'une part, puis il faut lire aussi ce drôle de bouquin, mal traduit du reste, qu'il a intitulé « De la religion ». Il croyait avoir compris ceci, que ce mot « Dieu » qui lui paraissait un mot vide de sens, une espèce de vocable indéterminé, devenait pour lui tout à coup vivant, à l'état d'explosion et de source. Il disait « Qu'importe que nous puissions ni le définir ni le cerner, maintenant je suis entré dans une connaissance par contact. C'est pas vrai de dire que nous appartenons à Dieu comme un despote extérieur. Nous sommes abouchés à lui, nous vivons de lui, tout vit par son souffle. » Et ce par quoi je dis « je » n'est pas autre chose que sa propre palpitation. Pour être véritablement, nous dit Tolstoï, pour être véritablement, j'avais compris que nous n'avions qu'à dire oui à une proposition permanente qui nous était faite et que le « moi », que le « je » était insubmersible et que la mort n'existait pas et que la mort était en transfert d'existence. À ce moment-là, Tolstoï est entré dans une paix intérieure qui ne l'a plus jamais quittée. Et c'est ce qui m'exaspère contre Suarez, par exemple, qui dit « Tolstoï est entré dans une espèce de désespoir ». Il en était venu à dire que ce qui est le mieux pour l'homme, c'est de n'être pas. Alors que si vous lisez la correspondance et le journal de Tolstoï, vous apercevez qu'à partir de cette date et jusqu'à sa mort c'est en 1910, c'est ce que je viens de vous raconter, de 1878, cet homme était dans une plénitude de joie intérieure. Et tellement peu séparé de la réalité, que dans une date de 1979, un camarade qui s'appelait Fête, il lui dit « C'est l'été, le merveilleux été, je suis fou de la vie ». Parce que la vie avait pour lui maintenant pris un sens radieux. Alors voyez, cette paix qui était entrée dans Tolstoï, on se demande pourquoi elle va créer autour de lui tellement de malheur.
Oui, le problème de Tolstoï est d'ordre religieux, mais comment se fait-il, puisqu'il avait atteint une certaine paix intérieure, qu'il ait connu les tragédies qu'il a connues dans son existence?
Je vais vous expliquer, c'est là où Tatiana frôle la question sans la pénétrer. Le drame, c'est Sonia, sa femme, qu'il aimait profondément Tolstoï, vraiment beaucoup, hein, il l'a désiré très longtemps, jusqu'à ses 70 ans. Et il aurait tellement voulu que Sonia le suive dans cette découverte intérieure qu'il avait faite. Orsonia, c'était une petite orthodoxe, vous savez, par Vitesakis, quoi, elle est à la messe parce que ça se fait. Mais cette réalité religieuse qui, pour Tolstoï, avait pris maintenant une espèce de vitalité fondamentale, enfin, quelque chose aussi réel que l'uranium et les galaxies, pour elle, c'était de l'utopo, vous savez, c'était de la phrase. Alors il lui explique, c'est lui expliquer qu'il y a une implication immédiate de la foi qui est entrée en lui. Et là, il y a une phrase de lui qui m'a bouleversé, qui m'a remué, c'est vrai. C'est quand il essaye d'expliquer à Sonia la fameuse parabole du Samaritain, que tout le monde connaît, quoi. Samaritain, vous savez bien, c'est le type qui va s'occuper d'un blessé qui est victime d'un accident là sur la route entre Jérusalem et Jéricho. En descendant de Jérusalem et Jéricho, et je vous assure en effet que ça descend, puisqu'on descend, vous le savez bien, au-dessous du niveau de la mer. L'avant de sexe évangélique, il nous a dit qu'il y a un prêtre qui passait là, qui s'en foutait. Il y a un lévite qui passait là, disons un séminariste, il s'en fout aussi. Puis il faut que ce soit un samaritain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'était que les samaritains pour les juifs. C'était le boche, quoi, comment dire à nous, c'était le communiste, c'était le type infréquentable. Et il fallait que ce soit un samaritain qui s'occupe du blessé. Bon. Mais Tolstoï dit, dans le texte, le type qui est un blessé, il n'est pas victime d'un accident de la route. Il a été attaqué par des bandits. Alors Tolstoï dit, ben, ça veut dire, il ne faut pas simplement soigner ceux qui sont des victimes, mais il faut empêcher que les bandits agissent. Et qui c'est les bandits? Les bandits, c'est les exploiteurs, dit Tolstoï. C'est moi, c'est nous, dit Sonia, c'est nous. Parce qu'on a une énorme propriété qui nous rapporte de l'argent et on fait travailler des gens pour nous. Alors écoute, Sonia, disait-il, on ne peut plus continuer comme ça. Hein. Tu vois, je suis fort, je suis un petit bégard, 50 ans. On a déjà des grands-fils. Ben, on va garder 50 hectares hein, sur nos 600. 50, c'est déjà beaucoup. Et puis on vivra d'un autre travail. Alors Sonia, vous savez, mais elle ouvre de grands yeux, elle n'y comprend rien. Elle dit, mais t'es devenu fou, mon vieux, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu mets en question notre bonheur? Alors tu vas tout saccager. Puis il lui revient tout le temps et dit, mais non, tu comprends bien, on ne peut pas, c'est très mal ce que l'on fait. Tu es chrétienne, hein, tu vas à la messe, Sonia. Moi, j'y vais peut-être pas, mais je voudrais y aller, je vais y aller même. Mais seulement, il suffit pas d'aller à la messe, il suffit de prendre au sérieux ce qui nous est dit dans le christianisme. Notre morceau de pain n'est à nous que si chacun a le sien. Là, tu comprends bien qu'il faut changer de vie. Eh ben, elle ne comprendra jamais. Jamais. Et ça deviendra une tragédie entre eux parce que lui, il a pris tout à fait au sérieux et qu'elle essaie de le retenir, de le freiner. Il y a un moment où Tolstoï dit, mais j'ai gagné beaucoup d'argent avec mes livres. Je voudrais pas que mes fils, que toi-même, je voudrais pas que notre postérité gagne de l'argent avec mes droits d'auteur. Parce que j'ai essayé de faire des livres qui signifient quelque chose. Alors ben, je veux bien, tu vois, tout ce que j'ai écrit avant 78, c'était de la littérature. Hein. Oh, j'avais bien un arrière-plan, mais bon, d'accord, alors droits d'auteur. Mais après 78, hein, plus de droits d'auteur, parce que tout ce que j'ai écrit, c'était en vue d'un certain travail. Et elle hausse les épaules et dit, mais ça rapporte beaucoup. Et lui lève les yeux au ciel, dit, mais justement, c'est, je ne veux pas que ça rapporte, tu comprendras pas. Alors on va voir des choses épouvantables dans cette famille. Et Tatiana n'y a fait qu'une très rapide allusion. Les gosses, les enfants, sont tous, ou presque tous, contre le père. Il y en aura même un, l'aîné, qui s'appelle Léon, comme le père, qui va l'appeler salaud un jour. Il va lui dire ça en pleine figure, salaud. Il faut savoir du reste la réaction de Tolstoï. Ce moment-là, il la note dans un journal intime. Il dit, Léon m'a appelé salaud. S'il savait, comme bien des fois, j'ai été en effet un salaud sans le lui dire. Alors j'ai rien à dire, mais dans ce cas-là, cette fois, il m'a appelé salaud pour quelque chose qui est pas juste, qui est pas légitime. Tolstoï se débat à la fois contre sa femme et contre ses fils, parce qu'il est tout seul. Cette famille qui semble lier la famille aux 6 enfants, 7 enfants, 8 enfants, vous savez, ben cette famille est coupée en deux. Il y a d'un côté le vieux papa Tolstoï qui vieillit, qui va s'avancer vers ses 70, vers ses 80 ans, puis de l'autre côté le petit groupe familial, et il y a cette malheureuse Tatiana entre les deux, là, qui ne sait pas exactement pourquoi ils se battent tellement, pourquoi ça va si mal. Et un père Tolstoï qui dit, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Il dit, mais si je reste avec eux, je suis en train de me renier. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont venus auprès de lui, qui arrivaient à cause de ses livres, pour voir ce fameux Tolstoï. Alors ils s'amenaient à travers l'Europe. Hein. Puis quand ils arrivaient à Yasnaya Polyana, on leur disait, c'est là-bas chez Tolstoï. Et là-bas, c'est une grande maison. Alors Tolstoï disait, mais je sais qu'il y a des gens qui sont repartis. En disant, comment? Il vit comme ça, comme un châtelain, il continue à vivre comme un barine, il écrit ce qu'il écrit. Faut que je m'en aille, absolument. Et dans une note de son journal intime, à ceci, je détruis, par ma façon de vivre, ce pourquoi je vis. Pourquoi il s'en va pas? Alors laissez-moi vous expliquer quelque chose là qui est assez émouvant au fond. Tolstoï, qui s'interpelle quelquefois souvent dans son journal intime, qui s'appelle lui-même, et Léon, hein, il dit, Léon, t'es très fort hein, pour parler de la charité, pour parler du prochain. Ah, il faut que du prochain. Mais qui c'est ton prochain le plus proche? Mais c'est Sonia. Sonia, elle est devenue terrible pour toi. Figurez-vous, en effet, ça je fais une parenthèse, et Tatiana ne savait pas, que lorsqu'il n'a plus pu coucher avec sa femme, physiquement il ne pouvait plus, quoi, Ben, elle était furieuse. Il a pourtant passé 70 ans. Et figurez-vous qu'elle l'a attaqué en lui disant « Tu couches avec Tchertskov. T'es devenu un averti. » Évidemment, Tatiana l'a pas su. Mais voyez le coup que ça pouvait faire à Tolstoï. Sa femme, parce qu'il ne pouvait plus la baiser, considérait que c'était devenu un averti, un type monstrueux. Bon, je ferme ma parenthèse et je reviens. Tolstoï se dit « Mon prochain, hein, dont je parle tout le temps, mais c'est Sonia, mon prochain. Elle me rend la vie impossible, mais j'ai promis de m'occuper d'elle. J'ai promis devant Dieu, puis maintenant c'est un mot qui est important pour lui, j'ai promis devant Dieu de m'occuper d'elle. Donc c'est mon prochain le plus proche. Alors si je m'en vais, elle va être malheureuse, elle m'a déjà annoncé, je me tuerai si tu t'en vas. Pourquoi elle se tuera? Parce qu'elle dit, l'opinion publique sera contre moi. On dira, si le comte Tolstoï a abandonné sa femme, c'est qu'il avait quelque chose à lui reprocher. Je veux pas que tu me quittes. Je me tuerai si tu me quittes parce que ça retombera contre moi. » Il est pris dans une pince le type. Hein. Il se dit, mais je trahis tout ce que j'aime en vivant comme je le fais. Et si je m'en vais, je trahis mon christianisme même.
Après cette lutte acharnée entre son désir de rester et en même temps le désir de ne pas se renier, au terme de cette lutte, il est parti quand même.
Voilà. Ben vous avez raison. Ça se passe, je crois, le 28 octobre 1910. Il avait déjà eu ses 83 ans, hein, 82 ans. Et il ne peut plus tenir le coup. Il y avait Tchertkov, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui en effet faisait une pesée permanente sur lui en disant « il faut vous en aller ». Puis il y avait Tolstoï qui disait « je ne peux pas, à cause de Sonia, je ne peux pas ». Et le jour où il va partir, il faut savoir dans quelles conditions. Il tenait depuis longtemps un journal intime, Sonia en tenait un du reste aussi, et elle voulait absolument savoir ce qu'il y avait dans ce journal intime. Alors elle lui avait dérobé. Il avait décidé de faire un autre petit journal intime qui s'appelait « Journal pour moi seul ». C'était sur des tout petits bouts de papier qu'il avait cousus ensemble, ça avait je crois même 7 à 8 cm, pas plus, de hauteur, et il mettait ça dans la journée dans sa botte et la nuit sous son oreiller. Et puis il s'est aperçu que le premier de ses cahiers, Sonia était arrivée à le trouver, il avait disparu. Ça le bouleverse, il dit « c'est pas possible, enfin, je peux plus avoir une vie intérieure, ma femme me surveille pour tout ». Alors dans cette fameuse nuit du 27 au 28 octobre 1910, il a entendu que dans son cabinet de travail, qui séparait sa propre chambre à coucher et la chambre à coucher de sa femme, il a entendu des papiers qui enrhumaient. Il y avait une lumière qui passait sous la porte. Il dit « c'est Sonia, 3h du matin, c'est Sonia qui est en train de gratter dans mes papiers pour trouver et mon journal intime et mon testament ». Parce que la grande question pour Sonia, c'était la question du testament à cause des fameux droits d'auteur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle se dit, pourvu que Léon n'ait pas eu l'idée dans son testament d'exiger que ses droits d'auteur ne viennent plus à la famille, mais qu'il n'y ait plus de droits d'auteur et que les livres soient vendus au prix coûtant. Alors il se lève, il est assis dans son lit, hein. Elle a entendu que le lit craquait, elle ouvre la porte, Sonia. Elle lui dit, tu dors pas? Alors il est un peu intimidé, hein. Il est toujours timide devant sa femme, mais il dit, non, je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillé. Mais dors bien, mon vieux, dors, il faut, bon. Alors, il se recouche, elle s'en va, la lumière disparaît. Alors il se dit, elle n'a pas osé parce qu'elle se demande si je ne vais pas rester éveillé, si je ne vais pas la guetter. C'est à ce moment-là, vers 3h30, 4h du matin, qu'il prend sa décision. Je ne peux plus, je m'en vais. Et il a honte, il faut savoir qu'il a honte. Il va aller trouver sa fille Sacha, la dernière, il avait confiance. Il lui dit, écoute, je vais partir, je ne suis pas fier de ce que je fais. Je ne peux plus, tu comprends, je ne peux plus. Et puis il écrit une petite lettre à sa femme qu'elle lira en se réveillant. Elle se lève vers 11h du matin et nous sommes 4h du matin. Petite lettre où il lui demande pardon. Il dit, je sais bien que c'est mal ce que je fais, mais je te demande pardon, je ne peux plus tenir. Alors le voilà qui s'en va. Et vous savez dans quelles conditions il va s'en aller. Hein. Il part avec son médecin, parce qu'il était déjà malade. Il va attendre un train, dans un froid glacial, avec un grand vent. La petite gare sur laquelle il prenait le train, c'est une gare de western. Vous savez, c'est des plaques de bois, des rondins. Il n'y avait rien pour s'abriter. Il faisait un très grand vent froid, octobre. Alors il s'en va et il voudrait aller trouver sa sœur Marie, qui était veuve, dont les enfants étaient mariés, qui s'était fait religieuse. Il voudrait aller voir sa sœur Marie. Il voudrait lui demander si elle ne peut pas l'accepter. Non pas lui, homme, dans sa communauté féminine, mais enfin, tout près. Elle lui dit, il la trouve en effet, elle lui dit, mais rappelle-toi, t'es excommunié. Et c'est vrai, il faut savoir ça, que Tolstoï avait été excommunié en 1901, par le Saint-Synode de toutes les Russies, qui avait trouvé cette phrase formidable, le comte Tolstoï, dans son orgueil satanique, s'est dressé contre le christianisme pour lui ôter sa substance. Alors que justement, ce que Tolstoï voulait faire, c'est de maintenir la substance du christianisme. Il lui dit, mais est-ce que je ne pourrais pas rester là, pas loin du couvent, dans l'aura du couvent? Je pourrais faire des choses, moi, je suis fort encore. Alors que le pauvre type, hein, il avait une nuque toute petite. Sacha nous dit, la nuque de papa était devenue mince comme celle d'un enfant avec des cheveux frisottés. Il dit, je pourrais faire des choses que vous ne pouvez pas faire, que les moines ne peuvent pas faire, je pourrais m'occuper des cochons, par exemple. Il dit, non, il ne faut pas faire ça, tu sais, ça fera scandale. Alors vous savez ce qu'il décide à ce moment-là de s'en aller, foutre le camp, réellement foutre le camp, vous allez le plus loin possible. Il va partir du côté du Caucase, où il était allé quand il était tout jeune. Il avait attrapé la crève là, en attendant son train. Son docteur qui l'accompagne lui prend le pouls tout le temps. Il crache du sang, il tousse, il crache du sang. Si bien qu'il s'arrête dans cette petite gare de Astapovo. Et c'est là qu'il va mourir si misérablement.
Mais après son départ, que se passe-t-il chez lui, dans cette grande propriété où il a laissé une femme qui ne comprend rien et des enfants divisés?
Eh bien, lorsque Sonia s'est réveillée, je vous ai dit vers 11h, et qu'elle a lu le petit billet de son mari, elle a annoncé qu'elle allait se tuer. Alors elle est partie, à travers la propriété, dans la direction d'un étang, sans profondeur du reste. On a couru derrière elle et on l'a sauvée tout de suite. Il y avait deux enfants qui étaient pour Tolstoï. Il y avait Tatiana et puis il y avait surtout Sacha. C'était la dernière fille, Alexandra, qui vit encore, je crois, qui vit aux États-Unis. Et à Sacha, il avait dit où il allait. C'est-à-dire qu'il lui avait dit « Je vais chez ta tante, Marie ». Mais elle est fidèle. Elle ne dit pas à sa mère ce qu'elle sait. Sa mère la tourmente en lui disant « Mais dis-moi, est-ce que tu sais ce que ton père a dit ?» Elle ment. Elle dit « Non, non, je ne sais pas où il est », alors qu'elle le savait. Et puis c'est elle qui va faire passer, elle, Sacha, un petit billet à son père lorsqu'il est auprès de Marie pour lui dire « Maman va finir par savoir, elle a deviné, elle a pensé, elle pense que tu es chez Marie, il faut t'en aller. » C'est pour ça que Tolstoï est parti. Alors finalement, c'est un journaliste qui, ayant appris que le comte Tolstoï avait disparu de sa maison, s'était mis à sa recherche et c'est lui qui va se permettre d'envoyer un télégramme à Yasnaya Polyana pour avertir Sonia pour dire « Votre mari est à Astapovo ». Alors à ce moment-là, il loue un train spécial pour 500 roubles du reste. Elle se fait conduire à Astapovo. Et elle essaye de le voir, et il y a un barrage. C'est le docteur lui-même qui dit « Madame, vous pouvez pas entrer, parce qu'il va être dans une telle agitation s'il vous voit, que vous risquez de le faire mourir tout de suite. » Alors pendant 3-4 jours, elle va être là dans son train spécial, disant toujours au docteur « Mais enfin, j'ai payé 500 roubles !» Il dit « Madame, peut-être, oui, mais si je vous laisse entrer, vous allez le tuer. » Alors il va accepter la présence de Sacha et la présence de Tatiana. Il va balbutier, vous savez, dans les derniers moments, il lui fait de l'oxygène, il sait plus toujours ce qu'il dit. La dernière parole, paraît-il, que Tatiana aurait relevé sur ses lèvres, c'est ceci: plus il y a de l'amour dans l'homme, plus l'homme existe. Je ne suis pas sûr, vous savez. Elle nous a peut-être arrangé un peu les choses, parce que je pense que le pauvre homme avait son esprit tout à fait embrumé. Toujours est-il que sa femme n'a pas effectivement pu le voir, et qu'il est mort, comme il le souhaitait, je pense, hors de sa présence.
Alors, au total, qui est pour vous Tolstoï, Henri Dumas?
C'est un être double, vous savez, Tolstoï. C'est d'une part un très grand écrivain, hein. C'est un homme qui avait un sentiment extraordinaire du malheur autour de lui. C'est un homme qui a regardé les Moujiks avec un cœur neuf. Lui, c'était un barin, c'était un propriétaire. Et puis, peu à peu, cette idée était entrée en lui qu'il ne pouvait pas continuer à vivre comme ça. Avant même, vous savez, avant même qu'il fût chrétien, entre guillemets, enfin qu'il ait fait ce grand mouvement d'intériorité, il était déjà préoccupé. Alors, voyez-vous, je trouve, moi, que Tolstoï est un homme profond. Je veux dire, un homme qui pose les vraies questions. C'est un homme qui vivait, même lorsqu'il n'avait pas encore réalisé son intériorité complète, lorsqu'il ne s'était pas accompli, parce qu'il a eu l'impression à partir de sa 50e année de s'accomplir, un tâtonnant, un homme qui avait toujours les yeux levés au-dessus de la réalité quotidienne. Un homme qui ne cessait pas de se poser des questions et qui voulait tâcher de vivre le plus noblement possible. C'est saisissant de penser que quand il avait 16 ans, il avait commencé un petit journal qui était le journal de ses fautes, en fait, ses manquements. À ce moment-là, vous savez, il avait déjà quitté le christianisme en disant « c'est tout à fait de la blague », et en particulier ce qu'il avait éloigné du christianisme, c'était le comportement des chrétiens. Il y a une note de lui, de sa 16e ou 17e année, qui dit ceci: « Ce qui me renverse, c'est que quand je regarde vivre les gens autour de moi, il est impossible de savoir par leur comportement s'ils croient ou s'ils ne croient pas. Parce qu'il me semble bien, dit-il, il me semble bien que ce sont ceux qui sont le plus fidèles à la messe, qui sont le plus durs et le plus inhumains. » Et ça l'avait écarté. Et puis maintenant, vous avez vu ce grand mouvement intérieur qui se produit en lui. Alors si je voulais essayer de définir mon personnage, c'est très difficile de définir en quelques mots. Je vous dirais quand même que c'est un homme obsédé par une question qui serait au fond la question du sens de la vie. Et je voudrais vous raconter, vous parler d'un petit texte qu'il avait écrit en 1904, il va mourir en 1910. En 1904, je crois que c'est Birdioukov, un de ses amis qui lui a survécu, qui lui avait dit « Vous devriez raconter votre vie quand même ». Il avait commencé, puis ça lui paraissait du narcissisme et il s'était arrêté. Néanmoins, il avait eu le temps de raconter un certain nombre de choses, dont celle-ci. Il dit « J'ai jamais oublié que quand j'étais tout gamin, comme ça, à 6-8 ans, il y avait mes deux frères, donc plus âgés que moi, qui avaient entendu les grandes personnes parler à table des frères moraves. Les frères moraves, je crois que c'est une secte de dissidents chrétiens du XVIe siècle, qui voulaient des chrétiens fondamentaux, quoi. Et morave, il paraît qu'en russe, le mot fourmi se dit mouraveil. Alors, mon frère aîné avait compris les frères fourmis. Et il nous disait « On va jouer aux frères fourmis ». Et pour ça, disait-il, voilà ce qu'on faisait. On attendait que les grandes personnes soient sorties. Et au salon, on se cachait sous une table, on mettait un grand rideau sur la table, ou un tapis, quoi. Et on était là, tout blottis, les uns contre les autres, sous la table, en essayant de penser à être des frères fourmis. Et les frères fourmis, c'était des gens qui voulaient que les gens soient heureux. Alors il écrivait ceci, Tolstoï, cette couverture, ce vieux rideau, c'était pour nous comme la voûte du monde. Et nous nous représentions tous les hommes. Alors écoutez bien, c'est ce qu'il écrit en 1904. Et de même que je croyais alors qu'il existait une baguette verte sur laquelle était écrit qu'il faut détruire le mal au fond des êtres pour leur donner le bonheur. De même, aujourd'hui que je suis vieux, je crois que cette vérité existe, que ce secret est vivant et qu'il donnera aux hommes, s'ils savent le lire dans leur cœur, tout ce qu'il leur promet. Je remercie Dieu d'avoir pu jouer ainsi enfant, car tout est jeu dans le monde, excepté ça.
C'était les trois premiers volets d'une série de 5 entretiens avec Henri Guillemin, menée par Geneviève Guichenet et diffusée pour la première fois sur France Culture les 26, 27 et 28 avril 1976. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger en ligne sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France, de même que les deux derniers épisodes de cette série à suivre. Survive.